Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Agnès Bonfillon.
Et avec Hortense Crépin pour le journal. Bonjour Hortense.
Bonjour Agnès, bonjour à tous. On commence avec cette mort d'un adolescent hier soir. Ça s'est passé à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Un jeune de 15 ans a été tué par balle. Il se trouvait devant l'espace culturel de la ville quand deux personnes à scooter lui ont tiré dessus avant de s'enfuir. Les faits se produisent quelques jours après la mort de deux adolescents de 14 ans dans des rixes en Essonne. Cette fois, il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Ludovic Bonnet est le secrétaire général du syndicat SGP Police en Seine-Saint-Denis.
Visiblement, c'est un règlement de compte. Hein. Deux individus qui sont montés sur un scooter, qui sont arrivés au niveau d'une MJC dans laquelle avait la victime. Un des deux est descendu du scooter, a pénétré dans la MJC et puis a fait feu sur la victime, qui est décédée malheureusement. Et les deux individus ont pris la fuite à bord du scooter. Voilà. Dans un département comme le 93, il n'y a rien qui me choque. Si je cherche, je suis persuadé que je peux vous trouver une affaire semblable. On a l'impression que cette ultra-violence, elle se manifeste de plus en plus au sein des jeunes. Et c'est juste pas acceptable, même pour nous, policiers, quoi. C'est difficile à contrôler ce genre de choses. La violence entre les jeunes, c'est pas vraiment la police qui va pouvoir la contrôler, hein. C'est un phénomène sociétal, je pense. Pourquoi est-ce que les jeunes sont plus violents qu'avant? Malheureusement, vous voyez, deux individus qui fait feu sur un adolescent de 15 ans, c'est compliqué à gérer, on peut pas être partout.
Ludovic Bonnet, secrétaire général du syndicat SGP Police 93, joint par Valentin Boisset.
L'autre information de la nuit, Hortense, c'est ce mercato au sein du staff de l'Olympique de Marseille.
Oui, après des semaines de conflits entre les dirigeants du club et les supporters de l'OM, Franck McCourt, le propriétaire du club, a annoncé hier soir l'arrivée de l'Argentin Jorge Sampaoli comme nouvel entraîneur. Ça, c'était un secret de polichinelle, car les supporters ont surtout appris le départ du très contesté président du club, Jacques-Henri Hérault, Hugo Hamelin.
Oui, des supporters qui lui ont mis une pression d'enfer, mais depuis des semaines, sa légitimité était contestée. Au-delà des fanatiques du Vélodrome, aussi ravis que surpris hier soir à Marseille, d'anciennes gloires du club, des personnalités comme Ayam, comme Jean-Pierre Foucault, ont eux aussi mis leur poids dans la balance, car Jacques-Henri Hérault aura résisté longtemps aux banderoles, aux coups de pression. Il sera resté 4 ans et demi à la tête de l'OM pour un bilan bancal, horrible sur le plan financier, décevant sur le plan sportif, avec seulement une parenthèse enchantée, cette finale d'Europa League en 2018. Le plus probant, ce sont finalement ses actions hors football. Il a ouvert la commanderie aux femmes victimes de violences, il a soutenu la scolarisation des enfants roms, il a aidé des clubs de quartier. Mais c'est terminé désormais pour JHE, et ce matin, les fans de l'OM sont soulagés. Ils vont pouvoir accueillir dans les prochaines heures leur nouvel entraîneur, l'éruptif argentin Sampaoli, qui s'est vrai, leur ressemble un peu plus.
Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Et Jacques-Henri Hérault est remplacé par Pablo Longoria, jusque-là directeur sportif de l'OM.
Au chapitre de la crise sanitaire, Jean Castex tient ce matin une réunion avec les préfets des 20 départements placés sous surveillance accrue.
Oui, objectif, étudier des possibles mesures plus drastiques dans ces territoires, comme c'est le cas depuis ce matin dans les Alpes-Maritimes ou à Dunkerque, confinés pour deux week-ends. Et le débat a déjà commencé à enfler à Paris. Le premier adjoint à la mairie, Emmanuel Grégoire, a plaidé pour un confinement tout court de 3 semaines avant de rétro-pédaler et d'évoquer une simple hypothèse qui ne pourrait être prise qu'à l'échelle de la région. Les discussions n'ont donc pas franchement débuté du meilleur pied entre le gouvernement et la mairie, Vincent Derosier.
Oui, et les mots sont très durs à l'encontre d'Anne Hidalgo. Cette proposition de confinement est idiote scientifiquement, pour ne pas dire plus, ironise un proche d'Emmanuel Macron. En déplacement à Nantes hier, le Premier ministre, lui, a aussi lâché ses coups. Avec les variants, ce n'est pas possible, dit-il. Il ne faut pas raconter de fadaises. Enfin, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, lui, enfonce le clou avec un soupçon d'ironie.
Je pense aux millions de Parisiens qui se sont levés ce matin en apprenant que leur mairie exigeait qu'ils soient reconfinés, que leur commerce soit fermé, que les écoles soient fermées. Et puis finalement, quelques heures plus tard, ça a changé.
Alors face à la polémique, la mairie de Paris hier a nuancé ses propos. Il s'agit bien de mesures qui concerneraient toute la région Île-de-France. De son côté, le gouvernement a fait de la concertation avec les élus une priorité. Il promet donc d'étudier cette solution. La pression est donc un peu retombée, mais ce n'est certainement pas la dernière passe d'armes entre le gouvernement et la mairie de Paris.
Vincent Derosier du service politique de RTL. Alors, reconfinera, reconfinera pas, tout le monde est suspendu aux annonces du gouvernement, et notamment les commerçants. Ils s'apprêtent à finir mardi les soldes d'hiver, des soldes qui ont pourtant été prolongés de 2 semaines. Mais le constat est jusque-là très maigre, Vincent Serrano.
Oui, bilan plus que mitigé pour Françoise et Pierre, qui ont déjà enlevé de leur vitrine la banderole affichant la dernière des marques.
Alors, on va entrer à l'intérieur pour poser la question à Françoise. Peu de clients pendant ces soldes et surtout aucun semaine, après 18h.
En semaine, c'est évident. J'ai beau eu avancé mon heure matinale, puis maintenant, je ne fais même plus de pause déjeuner. Donc, ça rattrape rien. Mais sur le samedi, à la limite, c'est différent parce que les gens ont toute la journée pour faire leurs courses.
Si on parle d'un nouveau confinement, et ça fera encore du monde en moins.
Alors, pour l'instant, pas sorti de l'auberge. Et puis, je pense que c'était plus une décision politique pour moi et non pas pour le bien public. Ça, c'est ma petite idée que j'ai derrière la tête.
Je sens une pointe d'agacement. François,
ça va être terrible.
Lassé de tout. Il y a encore 3 semaines, 1 mois, on devait être confinés. Le président nous a dit « bon, on n'est pas confinés ». Ça nous a soulagés vraiment. Maintenant, c'est la douche froide. On ne sait pas si on va faire comme Nice, comme Dunkerque, comme tout ça. On ne sait pas. Et donc, on reste dans l'expectative de ne pas savoir. Et à la fin, c'est lassant.
Voilà, Pierre qui va maintenant finir de décharger la palette devant son magasin de décoration. Ce sont les commandes qu'il a passées il y a 2 mois maintenant. Sa crainte aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir écouler ce stock rapidement.
Vincent Serrano.
En tout cas, si reconfinement il y avait, il ne serait donc possible, comme à Nice et Dunkerque ce week-end, de sortir qu'avec un motif valable. Et acheter un livre en frais désormais partie.
Oui, depuis un décret publié hier au Journal officiel, les librairies sont considérées comme des commerces essentiels. Concrètement, en cas de reconfinement, vous pourrez aller choisir vos romans et vos BD dans les étagères sans avoir à passer par du click and collect. La fin d'une lutte acharnée pour beaucoup de professionnels du livre, comme Florence Kamerman. Rappelez-vous, cette libraire de Cannes avait refusé de fermer sa boutique en novembre pendant le confinement.
Novembre a été un moment extrêmement dur, extrêmement stressant. On a tenu bon, on est nombreux à avoir tenu bon. C'est une véritable victoire. Le livre est essentiel, on le reconnaît enfin, il était temps. Ça a été un combat rude, ça va réjouir nos lecteurs. C'était un combat au nom de la culture, au nom du livre. C'était également un combat pour nos libertés et notre liberté d'expression, parce que le livre représente quand même la liberté d'expression.
Florence Kamerman, libraire cannoise, jointe par Valentin Boisset.
On fait une pause et dans un instant, la France connaît le nom de son premier adversaire pour la Coupe du Monde de rugby. C'est dans 2 ans.
RTL Matin, avec Agnès Bonfillon.
Il est 8h09, la suite du journal d'Hortense Crépin et du rugby. Pas de rencontre demain, vous le savez, entre le 15 de France et l'Écosse pour le tournoi Destination à cause des 4 coronavirus. Mais les supporters ont appris une nouvelle qui devrait les consoler.
Oui, elle concerne la Coupe du Monde de rugby. Ce sera en France en 2023. On connaît l'affiche du match d'ouverture. Et c'est un peu la rencontre rêvée pour les fans de rugby. Le 15 de France va affronter la Nouvelle-Zélande. Écoutez la joie de Claude Haché, le directeur général de la Coupe du Monde de rugby.
On ne pouvait pas rêver plus beau spectacle que ce match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Quand on a su que la Nouvelle-Zélande était dans la poule de l'équipe de France, évidemment on y a pensé. Par politesse et par proximité, j'en ai parlé au staff de l'équipe de France, qui au tout début était un peu hésitant parce que attaquer une Coupe du Monde avec une telle affiche, c'est toujours une petite part de risque, mais très vite a compris également que ce match de haute intensité se déroulerait tôt. Plus ça laisserait du temps aux joueurs pour se préparer pour le quart de finale.
Et puis l'éventuelle retrouvaille entre les deux nations ne pourrait avoir lieu alors qu'en finale.
C'est ça, exactement. Pour moi, c'est quasiment comme une finale, avec en plus l'assurance que l'équipe de France va la jouer.
Claude Haché, le directeur général de la Coupe du Monde, joint par Jean-Michel Rascol. Notez la date, Agnès, ce sera le 8 septembre 2023 au Stade de France. Parfait. En football, la 27e journée de Ligue 1 et la 3e défaite d'affilée pour Rennes, vaincue au Roizen 2-1 par Nice. À suivre aujourd'hui à 13h, Bordeaux-Metz et à 17h, Dijon reçoit le Paris Saint-Germain. Rendez-vous dont on refait le match à 18h30 avant RTL Foot à 20h. Et puis pour finir, Agnès, est-ce que vous savez tricoter ?
Non, moi je vous dis point mousse. Bon. C'est ça ? C'est déjà pas mal, ouais, ça existe, Céline ?
Je connais que le point mousse.
Voilà. Je ne sais pas tricoter non plus, mais vous avez peut-être vu en tout cas ces images assez impressionnantes de Barak. Barak, c'est cet agneau australien qui s'est enfui de chez son éleveur. Une cavale qui a duré 5 ans tout de même. Et pendant tout ce temps, il n'a pas été tondu. Résultat, l'association qui l'a recueilli a récupéré 35 kilos de laine. De quoi faire pas mal de pulls. Mais surtout, de quoi soulager l'agneau. Loïc Léjoni fait partie de l'équipe de France de tondeurs de moutons.
Un mouton qui a cette quantité-là de laine sur le dos, ça fait longtemps qu'il n'est pas passé entre les mains du coiffeur. Il faut tondre les moutons tous les ans pour leur bien-être. Voilà, évidemment, la raison principale, c'est pour la chaleur. Donc, vous imaginez bien que les étés en Australie sont très chauds. Donc, avec 35 kilos de laine sur le dos, il a dû passer quelques moments assez désagréables. Donc, il a dû se réfugier sous des arbres, il a dû chercher l'ombre. De même que pour se déplacer, il est hyper en agilité. C'est peut-être même une petite chance qu'il ait réussi à survivre, parce que le mouton pèse entre 50 et 70 kilos. Donc ça veut dire que 35 kilos de laine en plus, et c'est la moitié de son poids en plus sur le dos. C'est un gros soulagement pour lui. C'est encore les beaux jours en Australie, donc il n'aura pas froid ces jours-ci, parce que ça va lui changer la vie de tomber son manteau de 35 kilos.
Loïc Légenie de l'équipe de France des tondeurs de moutons, joint par Sophie Jousselin.
Et des moutons, vous auriez pu en voir hein, aujourd'hui au Salon de l'agriculture. Mmh. Malheureusement, le salon n'aura pas lieu pour cause de Covid. Annulé en raison de la pandémie, RTL se mobilise jusqu'au 6 mars avec des reportages, des émissions spéciales pour vous faire vivre ce salon à notre façon. À 8h45 tout à l'heure, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole, nous recevra dans sa ferme en direct. Merci Hortense, à tout à l'heure 9h.
À tout à l'heure.
Nous retrouvons tout de suite, vous le savez, le doudingue du samedi. Il fait toujours des paris sportifs complètement fous.